Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport, merci d'être avec nous tous les samedis, tous les dimanches. Vous êtes plus d'un million à nous suivre chaque samedi. On vous remercie évidemment. On espère qu'on vous accompagne peut-être en podcast. Hein. D'ailleurs, la première est déjà disponible quand vous êtes en train de courir, en fait, en train de faire votre sortie à vélo. Tiens, pourquoi pas. Fred Weiss, Julien Beneteau, Simon Dutin, Pascal Duprat sont avec nous. Dans un instant, on va parler de Novak Djokovic, le punchline hein, qui nous dit une ombre va suivre Sinner toute sa carrière. Est-ce que Sinner est sa vie à tout jamais? C'est une des questions que l'on va se poser avec vous au 32-16. Et puis aujourd'hui, les amis, événement sur RMC. On vous offre 120 000 euros. Incroyable. 120 000, toujours plus. Ouais. La plus grande somme d'argent jamais offerte à RMC. À gagner 120 000 euros. 100 000 euros pour vous, plus 20 000 euros pour la personne de votre choix. Je vous expliquerai tout à l'heure. Restez bien à l'écoute sur RMC, ça peut tomber à tout moment. Rendez-vous d'ici la fin de l'émission pour vous inscrire. Restez à l'écoute d'RMC, parlez-en autour de vous. Hein. Fred, lâche ton téléphone. Tu ne peux pas appeler tout de suite.
En fait, on gagnerait enfin de l'argent avec les gilets. Ce serait magnifique.
Mais tu rigoles ou quoi? D'abord, dans les grandes gueules du sport, un créateur d'émotions hors pair nous rejoint. En studio, Monsieur Paris 2024, ok, mais aussi un triple champion olympique.
RMC, face aux grandes gueules du sport.
Il doit passer encore trois portes d'Asiadis pour que ce soit officiel. L'Allemand a deux portes de la fin, les deux portes vertes. On va regarder le chrono, on va regarder le chrono pour rêver, on va regarder le chrono pour crier. D'Asiadis à la fin, attention, Tony Estanguet est champion olympique. Tony Estanguet champion olympique. Il a une médaille d'or. Médaille d'or pour la troisième fois de sa carrière. Après Sydney, après Athènes, il y a Londres. Maintenant, pour Tony Estanguet, le sourire énorme du Français. Qu'est-ce qu'il vient de nous réaliser à 34 ans pour ses dernières Olympiades?
Vous avez fait de ces Jeux vos Jeux. Vous avez toutes et tous été au rendez-vous. La France a été au rendez-vous. On se voyait comme un peuple d'irréductibles râleurs. On s'est réveillé dans un pays de supporters déchaînés qui ne veulent plus s'arrêter de chanter.
Il n'arrête plus de chanter Parade de Victor Lemann depuis. Il n'a jamais écouté. Il est avec nous en studio. Tony Estanguet, salut Tony.
Salut à tous.
Salut. Tony qui, dans une autre vie, a été grande gueule du sport. Il faut le rappeler quand même, hein, Tony.
Au tout début de ma carrière. Ouais,
tout début de ta carrière.
C'est là que tout a commencé, ouais. En fait.
Mais c'est ça, bah, voilà.
En fait, c'est un tremplin. On attend juste que nous aussi,
c'est mais ça marche pour ça, apparemment.
Voilà. Est-ce qu'on a eu une influence là-dessus? Bon, on va garder l'humilité ou pas. On va voir. Ancien patron de Paris 2024. Enfin, patron pour toujours, hein. De patron 2024, triple champion olympique de canoë à Sydney, Athènes et Londres, on l'a entendu. Vous venez poser vos questions à Tony, évidemment. Alors, tu es avec nous parce qu'il y a la parution de ton livre Par amour du sport aux éditions Calman-Lévy, l'histoire d'une victoire collective, celle de Paris 2024. Ça retrace ton parcours de la défaite de Paris 2012 où tu étais un peu dans les sportifs qui étaient là dans la salle à Singapour quand ça s'est pas très bien passé jusqu'à la fin de l'aventure 2024. On a réécouté, alors un peu d'égo, hein, c'était moi au commentaire à Londres en 2012.
Mais je jouais, c'était pas terrible.
C'est la question. C'était en pleine puberté en train de jouer, je crois.
C'était très bien.
J'étais un jeune journaliste, mais ça nous a donné les frissons, évidemment. Tu dis dans le livre, Tony, justement, on a réécouté Londres 2012, que l'émotion sportive, ce que ça t'a procuré Paris 2024 derrière, c'est peut-être encore plus fort que tes titres olympiques. C'est fort de dire ça.
Ouais, non, c'est vrai que moi, quand j'étais athlète, quand j'ai arrêté ma carrière, il y a beaucoup de gens qui me disaient « tu ne retrouveras jamais ». Une émotion aussi forte que celle que tu as vécue en tant qu'athlète. Et donc prépare-toi parce que ta reconversion, ça va pas être simple de retrouver la flamme, de retrouver l'envie. Et finalement, j'ai été quand même servi avec Paris 2024 parce que ce que j'ai vécu avec Paris 2024, c'était très différent que ma carrière d'athlète. Mais c'est vrai que personnellement, professionnellement, c'était encore plus fort parce que cette aventure collective que j'ai vécue à travers ces Jeux de Paris, oui, ça m'a beaucoup plus transformé finalement que l'émotion que j'avais pu vivre en tant qu'athlète.
Alors Tony, c'est passionnant de relire effectivement tout ce processus qui nous a amené jusqu'à Paris 2024 par amour du sport. On se replonge dans toutes les polémiques qu'on a toutes évoquées ici, hein, Tony. On a bien compris que ça a agacé parfois certaines polémiques qu'il a fallu déminer. Mais c'est aussi l'histoire d'un sportif qui se lance dans un monde très politique finalement. Cette histoire de Paris 2024, c'est Bernard Lapassé qui te met le pied à l'étrier. Bernard Lapasset qui est disparu aujourd'hui, une grosse pensée pour lui évidemment. Au début, on te regarde dans les réunions politiques et je crois que c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui te voit dans l'équipe, t'es pas encore président de Paris 2024, hein, qui te définit ainsi. Il dit bah, et puis il y a Tony, il est gentil. Tony, t'es défini ça, comme
elle
ça.
Toujours une fine,
voilà. Puis un jour, tu fais ton premier discours à la Philharmonie. Bernard Lapasset te dit tu es monté athlète, tu es redescendu comme président. Moi, je trouve ça intéressant la transformation qu'on sent dans tout le livre sur le sportif qui devient presque un homme politique, Tony. En tout cas, un homme de pouvoir finalement là-dedans. C'est dur, ça. Il y a pas un syndrome de l'imposteur aussi qu'on peut sentir parfois quand on est sportif au milieu de tous ces gens?
Si, bien sûr, c'était vertigineux en fait pour moi de me lancer dans cette aventure. D'un côté, j'en avais très envie parce que j'avais vécu Singapour, l'échec de Singapour, où je rêvais terminer ma carrière à Paris en France. Et je rêvais de voir des Jeux en France parce que les Jeux ont toujours occupé une place importante dans ma vie. Donc quand on me propose, et Bernard Lapasset me propose de faire partie de l'équipe, je dis oui tout de suite. Assez vite, je comprends qu'en fait, ils veulent quand même me positionner très haut dans l'organisation. Et c'est vertigineux pour moi parce que je me dis, mais j'ai jamais fait ça en fait. Donc moi, les codes de cette sphère politique, de parler à des grands patrons pour les convaincre, pour aller faire des chèques en centaines de millions d'euros, enfin c'est... Quand on vient du canoë-kayak, c'est pas tout à fait ce que je connaissais.
Et quand on vient de Pau aussi.
Allez, c'est parti.
Le limojo qui arrive, ça y est.
Ouais, c'est parti. Mais c'est vrai que voilà, j'ai adoré aussi ce projet parce que je me suis transformé et que je me suis mis au défi, comme quand j'étais athlète de haut niveau, d'apprendre, d'être bon, de faire la différence, de ne pas avoir peur à parler à un chef d'État, parce que de temps en temps j'étais face à des chefs d'État, et de pas avoir peur à parler à un grand patron parce que il fallait que j'arrive à le convaincre de devenir sponsor des Jeux. Et finalement, cet univers-là de rencontre de tous les univers, c'était pour moi hyper enrichissant.
Mais tu perds pas un peu pied aussi, Tony? C'est ça qui est assez fascinant dans le livre. Alors, à la fois comme patron de Paris 2024 et aussi comme membre du CIO, t'es très courtisé. Tu dis, il y a le roi Felipe d'Espagne qui vient nous voir avant la candidature de Madrid. Et puis t'es courtisé aussi, par des présidents, des chefs d'entreprise. Tu le dis, tu deviens un homme de pouvoir. Quand on est un gars de Pau, dont ta maman te vient te chercher en voiture à la gare, on perd pas un peu pied à un moment donné le sens des réalités?
J'ai jamais senti que je perdais pied, j'ai jamais senti que j'avais oublié d'où je venais, j'ai toujours cru en ce que je faisais, je savais pourquoi j'étais là et quelle était ma mission, c'était d'organiser ces Jeux, de garder un ADN très sportif, même si pour y arriver j'avais besoin de sortir de mon monde de sportif et effectivement d'engager et de fédérer des acteurs qui ne connaissaient pas grand chose au sport, mais moi j'avais besoin d'eux pour livrer les Jeux. Et donc c'était un peu un grand écart de temps en temps pour garder cet ADN de sport, tout en ayant encore une fois des gens qui venaient pas de ce monde-là. Mais moi j'ai beaucoup aimé ça et non, j'ai pas perdu pied parce que effectivement j'ai gardé ce contact très fort avec mes origines et je suis content d'avoir géré ce grand écart.
Simon.
Justement, Tony, sur ce sujet, alors en préambule, il ne faut pas la grosse bête. Hein,
la grosse bête,
c'est petit complexe d'infériorité. Petit complexe d'infériorité, c'est lié aux années basket, pour tout
oui,
ça.
Oui, on est dominé, bien sûr.
Mais moi, ma famille, elle vient de Kouaraznaï, on est voisins. Justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il y a peu de gens qui auraient pu imaginer, à l'époque de vos sacres sportifs, que vous deviendriez cet animal politique qu'il a fallu se construire pour. Justement, Georges le rappelait, changer d'interlocuteur, quoi. Hein, votre quotidien a dû changer. Est-ce que concrètement, quand on vient vous chercher, on vous dit, il y a peut-être une petite appréhension légitime en disant, moi je suis un ancien sportif, j'ai mon vécu. Est-ce que il y a cette interrogation, est-ce que je suis capable, est-ce que j'en ai envie de parler, d'apprendre ces codes de, je vais dire diplomatie, mais bon, ces codes politiques. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un peu de média training, j'en sais rien. Est-ce que vous vous êtes fait coacher, former, est-ce que vous êtes entraîné, est-ce que vous êtes challengé en vous disant, je vais d'abord voir si je m'en sens capable avant d'y aller.
Alors déjà, quand on me propose de rentrer dans cette aventure, au début on me dit, tu vas t'occuper des athlètes. Voilà. Donc ton rôle, c'est de donner une identité sportive à la candidature de Paris 2024. Les 5 dernières candidatures, c'était des candidatures politiques, portées par des acteurs politiques. On a besoin, et toi tu viens juste d'arrêter ta carrière, t'as du temps, t'es membre du CIO, donc on a besoin de toi pour essayer déjà de fédérer les athlètes français. Et donc mon job au début, il est que là-dessus. Ensuite, on me dit, t'es membre du CIO, tu connais les membres du CIO, tu vas faire du lobbying. Donc tu vas aller présenter la candidature de Paris 24 un peu partout dans le monde, rencontrer les gens, créer ce lien de confiance entre ton projet et les gens qui vont décider.
Donc c'est venu progressivement,
voilà.
Finalement.
Et finalement c'est venu très progressivement, mais à aucun moment au début on m'appelle pour me dire tu vas être le grand président des Jeux de Paris. C'était pas ça du tout. Et ça a mis 3 ans. Donc ça a été un apprentissage accéléré, parce que quand même 3 ans c'est assez court pour réussir à comprendre un peu tous ces univers-là. Mais moi je me suis mis en mode sportif de haut niveau, je veux être le meilleur, et je me suis formé, j'ai fait du media training, j'ai pris des cours d'anglais, j'ai pris des cours un peu dans tous les sens. Parce que c'était mon job, je devais être bon, et quand je prends la parole à la Philharmonie, devant 3000 personnes, j'avais jamais fait ça, c'était en 2016, c'était hyper impressionnant, il y avait tous les élus qui étaient là, il y avait tous les grands patrons, mais j'ai senti que ce jour-là, entre guillemets, c'était un test. Moi j'ai été testé avant de me retrouver président des Jeux, on n'a pas filé les clés à Estanguet comme ça, j'ai d'abord dû faire mes preuves, et c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est vraiment les coulisses de comment je me suis retrouvé de Singapour en 2005 à Paris 2024 à la cérémonie d'ouverture, toutes les étapes par lesquelles je suis passé.
Tony Estanguet est avec nous effectivement pour l'apparition de ce livre Par amour du sport aux éditions Calman Lévy, l'histoire collective de Paris 2024. Fred Weiss, oui. Avec qui tu as fait Sydney 2000 d'ailleurs.
Hein.
Fred qui disait quand je croisais David Douillet à Sydney, c'était un gringalet. Oui. Du coup Tony Estanguet, c'était quoi?
Estanguet, il était caché derrière David, on ne le voyait pas vraiment. Moi je me pose la question là, juste pour faire suite un peu à la question de Simon. On t'annonce qu'on a 2024, on dit c'est toi le boss. Alors c'est facile de se dire on se retrousse les manches, évidemment, mais ça veut dire quoi se retrousser les manches dans ce cas de figure? Parce que c'est quand même si t'étais préparé un petit peu, tu d'un seul coup c'est toi le patron, tu vas être un des hommes les plus importants de France, voire du monde à l'instant T. Comment on se prépare? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on travaille? C'est quoi les attentes que t'avais toi, et quelles étaient les attentes qu'on avait pour toi aussi?
Est-ce qu'on tient tête au président de la République, par exemple? Est-ce qu'on lui dit tout?
Non mais bien sûr que j'ai été dans un rôle où j'étais pas là pour faire plaisir, et j'ai eu des bras de fer avec beaucoup d'acteurs, jusqu'au chef de l'État, à la maire de Paris, ou des patrons.
De fer avec le chef de l'État, c'est-à-dire?
Contrôle fiscal.
Sur quoi?
T'avais non. Du soutien de la ministre quand même, non? Ou c'était
Bien sûr.
Des sports.
Non, mais globalement, ils ont tous été en soutien. Ouais. Si on a réussi ces jeux, c'est parce que globalement, on était tous à vouloir la réussite. C'est sur le comment où moi, je me battais sur le fait de défendre notre stratégie qui venait de notre vision du sport.
Mais par exemple, tu vas à l'Élysée, tu dis il faut que j'arrive à faire changer le président d'avis sur quelque chose.
Ouais.
Sur des choses concrètes comme
bien
ça.
Bien sûr, sur des sujets de stratégie, de financement, de stratégie sur la cérémonie d'ouverture. On a eu des débats. Enfin.
Mais comment on se prépare à ça?
Sujets stratégiques.
Moi, la vraie question, c'est comment tu te prépares à te dire
pas tout seul.
Je veux que ça soit comme ça. Donc t'as une équipe derrière qui te fait des propositions et toi tu vas les défendre, c'est ça en gros?
Exactement, c'est-à-dire que déjà pour reprendre ta question, quand on a l'obtention des jeux, moi je n'imagine pas que je vais disparaître, parce que ça fait 3 ans qu'on bosse comme des chiens pour obtenir les jeux. Quand on me dit est-ce que tu veux être le président des jeux, je me dis oui, j'ai envie de continuer cette aventure folle. Donc derrière, forcément je m'entoure, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire que je vais chercher des directeurs qui ont une expérience et une expertise qui est 10 fois plus grande que la mienne sur les sujets de finances, sur les sujets d'infrastructure, sur les sujets de communication, sur tous les grands postes de l'organisation des Jeux. On est allé chercher les meilleurs, on est allé chercher des gens qui savaient faire, qui avaient déjà fait. Et moi, mon rôle, c'était de continuer à coordonner cette équipe-là, mais surtout de promouvoir finalement le projet en France et à l'international. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant 7 ans derrière.
Tony Estanguet avec nous dans les grandes gueules du sport face au GG Bennett. Question à Julien Bennetto pour Tony.
Ouais, non, il y avait une des vraies volontés fortes de Paris 2024, c'était vraiment de casser les codes, de faire des Jeux Olympiques avec des choses iconiques, marquantes. Tu l'as réussi avec ton équipe, avec notamment cette cérémonie d'ouverture, avec la baignade dans la Seine, avec plein de choses. Justement, ce côté casser les codes, est-ce qu'il a été dur de le tenir vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des pouvoirs publics? Et est-ce que ça a été l'un des plus grands combats où finalement les gens qui n'étaient pas dans Paris 2024 avaient vraiment du mal à percevoir cette volonté-là?
Mais on a eu quand même beaucoup de chance d'avoir des chefs, président de la République, maire de Paris, président de région et ainsi de suite, qui globalement ont adhérer à cette audace. C'est-à-dire que depuis le début, effectivement, la stratégie, c'était de dire on ne fait pas seulement des jeux pour les faire les 33e jeux de l'histoire. On veut vraiment marquer l'histoire. On veut que ces jeux ne ressemblent à aucune autre édition des jeux. Et ça, on l'a fait valider dès le départ. Et ils ont pris beaucoup de risques quelque part, parce que c'était aussi pour leur image risqué de vouloir complètement changer les codes. Mais c'est vrai qu'ils ont été en soutien. Mais il a fallu quand même de temps en temps. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Défendre le pourquoi ça vaut la peine de changer complètement la manière de procéder.
Tony Estanguet avec nous, Pascal Duprat. Tiens, Pascal, une question pour
Tony. Tony, écoutez, moi c'est le management qui m'importe et j'ai vraiment envie de percer un mystère qui, non pas qui m'obsède, mais je voudrais avoir votre point de vue. Donc pendant un an, après un an de recul, ces Jeux Olympiques ont été merveilleux sous votre présidence. Vous donnez le sentiment d'avoir tout réussi. Mais néanmoins, je voudrais savoir s'il y a-t-il néanmoins une décision sous votre présidence que vous regrettez d'avoir prise.
Franchement, ce serait compliqué pour moi, vu le succès des Jeux, de vouloir revenir. J'aurais trop peur que ce soit moins bien à la fin. Si changer un truc, c'est que c'était moins bien derrière. Nous, on a énormément galéré sur la défiance qu'il y avait dans le pays contre les Jeux, ces polémiques, ces critiques. Les gens n'y croyaient pas, en fait. Ne croyaient pas qu'on allait réussir et pensaient que ça allait être un immense bordel dans le pays. Et...
On sent que c'est quelque chose qui a pesé, quand même. Franchement, Tony, en relisant le livre, c'était presque un peu lourd à un moment donné pour vous.
Au quotidien, ça devait être démoralisant.
Ouais, voilà, c'était dur de lutter contre tous ceux qui disaient ça ne va pas marcher. Et moi, j'étais convaincu que ça allait marcher, mais c'est vrai que...
Et il y a des moments un peu décourageants, Tony. On se dit, on a envie de jeter l'éponge.
Alors, jeter l'éponge, franchement, j'en suis jamais arrivé là. Décourageant, oui, parce que c'est pénible, en fait. On est accusé de tout le temps, avec beaucoup de mauvaise foi aussi, par des gens qui ne connaissent même pas le projet, mais qui se permettent de dire que ça ne marchera pas. Donc ça, c'est vrai que c'est usant. Mais voilà, il faut tenir. Quand on est athlète, de temps en temps, c'est dur aussi.
Mais c'est ce qui fait le succès aussi derrière. C'est-à-dire que les gens n'attendaient tellement rien, peut-être, finalement, qu'ils ont été agréablement surpris.
Et c'est pour ça que, pour répondre à la question, je suis pas sûr que je changerai grand-chose, parce que je pense qu'au final, ça a été un succès, un immense carton, peut-être encore plus beau que ce que moi j'ai rêvé que ce soit, parce qu'on est parti de très bas. Et qu'il y a eu une bascule et une opinion qui s'est complètement renversée. Et finalement, en France, on est capable du pire, mais on est capable du meilleur. Et souvent, on monte très très haut quand on part de très bas, quoi. Donc c'est ça qui est étonnant dans ce pays. C'est vraiment les Gaulois. Et moi, j'ai vécu ça à travers ces Jeux. C'est une photographie de la France. Et voilà, on râlait sur tout. Et à la fin, on était tous d'accord. Et même, c'était beau, quoi, de voir la France et les Français fiers de leur pays.
On peut te garder quelques minutes de plus, Tony, c'est possible, dans ton agenda. Allez, on va garder 5 minutes parce qu'il y a encore des questions des Grandes Gueules du Sport. On est avec Tony Estanguet face aux Grandes Gueules du Sport. On revient dans un instant sur RMC avec vos questions aussi au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Georges Quirino.
Les Grandes Gueules du Sport avec Fred Veil, Simon Dutin, Julien Beneteau, Pascal Duprat et face au GG ce matin, Tony Estanguet qui est avec nous pour l'apparition du livre Par amour du sport aux éditions Kalman-Lévy qui retrace donc cette victoire collective, comme tu l'appelles, de Paris 2024 et toute cette construction. Tony, ça a été aussi toute cette aventure, beaucoup de sacrifices aussi, que ce soit dans ta vie privée, personnellement. Est-ce que tu peux en parler? T'en parles de manière assez ouverte, hein, dans le livre. Ça demande une implication à 100% dans sa vie personnelle aussi.
Plus que 100%, Tony. Non.
Ouais, non, c'est sûr que moi, j'avais jamais vécu ça, une telle intensité où, en fait, vous abandonnez un peu à un projet parce qu'il se passe toujours quelque chose. Quand vous êtes président d'une organisation avec 4000 salariés et autant d'enjeux, il y a des sujets tous les jours, et j'ai envie de dire presque à toutes les heures. Donc moi j'ai adoré encore une fois vivre cette aventure, mais je raconte dans ce livre que ça a été dur à gérer d'un point de vue perso, parce que on est à fond dans un projet qui prend beaucoup de temps, et de l'autre côté
tu as divorcé, hein, voilà, on le dit dans cette séquence,
effectivement, ce sujet là alors encore une fois, hein, j'ai passé 22 ans avec ma première femme et ça s'est très bien passé. On a eu 3 enfants, on s'est séparés, mais quelque part, peut-être que s'il n'y avait pas eu les Jeux, on se serait aussi séparés, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas non plus réécrire l'histoire. Mais je raconte effectivement que, à titre perso, c'était pour moi quelque chose de difficile de gérer cette double dimension. Et je raconte que, ben, finalement, c'est quand même très important de garder un socle perso très fort pour réussir à avancer, et que mes enfants ont joué un rôle hyper important. Et je rends hommage aussi à mon père dans ce livre, parce que je, par amour du sport, je dis que si j'ai tenu jusqu'au bout, c'est bien parce que depuis tout petit, on m'a transmis quand même un truc hyper fort, hyper puissant, c'est cette passion du sport qui me fait aller au bout de cette aventure. Et cette passion, je la dois à mon père. Donc je raconte un peu de cette histoire-là.
Et ton père et ton frère aussi, qui a été quand même ton grand rival aussi en canoë. Ça a été peut-être ça le plus dur de ta carrière, quand tu l'as privé des Jeux pour y aller, toi, Fred Weiss.
Oui, ma question, on a une séquence qui s'appelle Vestiaire, le vestiaire ici dans les Grandes Gueules. Et tu parlais de la petite mort du sportif. Et j'ai envie de poser la question, c'est quoi la petite mort du président? Parce que j'imagine que la presse doit être très abrupte.
Écoute, justement, moi j'ai déjà vécu cette petite mort, comme tu l'appelles, en tant qu'athlète, où on m'avait expliqué que jamais je ne retrouverai quelque chose d'aussi fort. Donc ceux qui aujourd'hui me disent ça va être très dur à préparer 2024, au fond de moi, je leur dis non, franchement, on m'a déjà raconté cette histoire-là. Ce que j'ai vécu avec Paris 24 est encore plus beau que ce que j'ai vécu quand j'étais athlète. Donc je suis pas inquiet sur la suite. C'est vrai que par contre, par rapport à la première expérience que j'ai vécue, où j'avais enchaîné directement après ma carrière d'athlète, parce que j'étais un peu comme ça, après avoir fait 20 ans de canoë, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, avec cette expérience des Jeux de Paris 24, je suis moins inquiet, entre guillemets, sur la suite. Donc cette année, en 2025, j'ai pris du temps pour...
C'est quoi la vie de Denis Estanguet en 2025?
Je suis redescendu sur Pau.
T'aurais dû t'arrêter à Limoges en descendant.
et effectivement, voilà, j'ai fait du sport, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, je les accompagnais sur leurs compétitions parce qu'ils font du sport. Et j'ai pris du temps pour raconter cette histoire folle dans ce livre et réfléchir un peu à la suite. Donc je reviendrai vous parler de la suite.
Parce tu récupères un peu quand même. C'est voilà. Quand même un processus de récupération.
Exactement.
Là maintenant.
Ouais. Je me suis autorisé à récupérer, à prendre du recul, parce que ce que j'ai vécu, c'est quand même pas anodin. Et je veux pas le banaliser. J'ai besoin de le digérer, parce que voilà, encore une fois, c'est une expérience extraordinaire.
Emmanuel Macron t'a proposé d'être ministre des Sports sur cette période. Tu as refusé. Pourquoi tu as refusé?
Parce que je continue de penser que ma place, elle est plutôt côté société civile, pour porter des projets autour du sport, continuer à donner de la valeur au sport, devenir un acteur politique à temps plein. J'ai l'impression que je perdrai potentiellement cette faculté que j'ai développée à fédérer le mouvement sportif, des acteurs publics, des entreprises pour développer le sport.
Donc ça, c'est un truc auquel tu penses que tu n'iras jamais, la politique.
Bah, en tous les cas, ça fait plusieurs fois qu'on me l'a proposé.
Oui, mais peut-être que t'as pas proposé le bon truc. Peut-être que président de la République, c'est pas la République. Non, mais Teddy Riner, on parle ouvertement. Est-ce que toi, t'as des ambitions plus importantes, ou vraiment la société civile est plus importante pour toi?
Ouais, pour moi, aujourd'hui, mon moteur, c'est plutôt le côté société civile. Je me suis nourri là-dedans et j'ai l'impression que l'histoire n'est pas terminée. Ce que j'ai vécu avec ce projet m'a plutôt renforcé dans 10 ans. Il faut, dans ce pays, qu'on continue à porter
des projets. Ça veut dire quoi, ça, la société civile? Ça veut dire quoi précisément? T'as des idées, peut-être?
Porter des projets, moi, c'est ce que...
Dans le mouvement olympique
Dans le mouvement sportif, c'est vrai que moi, j'ai vu le pouvoir du sport pour rassembler, pour unir, pour faire société. Je crois à ça. Je pense qu'aujourd'hui, le sport, il est fragile, il est attaqué, il est diminué dans son budget. Et pourtant, moi, si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai été sportif et donc j'ai envie qu'on défende ce modèle-là. Et je ne peux pas m'échapper, quoi.
Pascal,
Tony, malgré tout, la présidence du CIO, c'est donc une ambition secrète ou avouée non, à non. moyen terme, même si c'est pas la société civile.
Ouais, alors moi, je me rends pas compte, pour rebondir sur ce que disait Pascal. Tu penses que tu aurais plus de poids en étant président du CIO ou ministre des Sports en France pour faire avancer les choses qui te tiennent à cœur en France? Ou dans le sport?
Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre. D'accord. La présidence du CIO, elle est prise pour les 12 prochaines années. Déjà, j'ai du mal à me projeter dans 12 ans.
Déjà sur 2026. Donc.
Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je veux continuer à essayer d'être au service du sport en France, au contact des acteurs. J'ai pas envie de repartir non plus sur une grosse structure avec de grosses responsabilités, parce que je suis dans une phase de transition. Mais quand même, je veux tout de suite de nouveau m'engager pour le sport en France.
Mais justement, on parle comme à pour tous les toutes les éditions des Jeux Olympiques, il y a le proverbial héritage des Jeux qui doit servir au pays organisateur, au pays hôte. Vous, votre mission, elle était de réussir ces Jeux, elle a été plus que remplie. Que pense Tony Estanguet justement des polémiques qui ont suivi parce que évidemment le sport, vous l'avez rappelé, on est dans un contexte géopolitique qui a amené des considérations budgétaires non prévues et des coupes budgétaires dont le sport fait souvent voilà les frais en priorité avec la culture, avec parfois la recherche. Est-ce que vous partagez l'ambiance quoi post-jeu en disant on nous a menti, on s'est foutu un peu de notre tronche, les promesses ne sont pas tenues. Est-ce que Tony Estanguet, il a envie de croire que les jeux ont, et c'est moi ma conviction, malgré tout apporté quelque chose et produiront des effets dans le futur, ou est-ce que vous êtes en colère en disant on a fait tout ça pour rien, ou tout ça on est en train de le mettre à la poubelle?
Pour répondre à cette question, je vais vous donner juste une anecdote. Hier soir, j'étais dans une librairie pour faire parce que mon livre est sorti hier. Donc, j'étais pour présenter le livre et faire des signatures. Pendant 2h30, j'ai signé des livres avec des gens qui étaient en larmes parce qu'ils ont vécu les Jeux. Et en fait, le fait de me revoir et de repenser aux Jeux, ça a laissé, les témoignages sont à peu près tous les mêmes, hein. Ça a changé ma vie, c'était tellement fort, tellement beau, avec mes enfants, avec ma famille, j'ai vécu un truc que j'avais jamais vécu, merci. Donc pour moi, l'héritage, il est réel. Je pense que ce pays a vécu un moment à part dont il se souviendra. C'était peut-être des émotions temporaires, éphémères, je pense que c'est pour la vie, en fait.
Et donc pour vous, cette aventure collective, elle l'est.
Et pour moi, c'est
un héritage. Alors justement,
l'héritage, il est majeur parce que le sport a cette capacité de laisser une trace et de faire nation. Et c'est pour ça qu'il faut le défendre. Et donc, oui, j'ai regretté tout ce qui s'est passé cette année parce que je pense que le sport, c'est le meilleur investissement. À long terme, si on coupe le sport, je pense qu'on s'affaiblit. Je pense qu'aujourd'hui, la France, elle va sortir de cette crise si elle investit sur ses points forts. Dans le sport, on apprend ça. On apprend pour gagner, on fait la différence sur ses points forts. Et je pense que le sport fait partie des points forts de ce pays.
Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du CNOSF, nous a dit ici que la baisse du budget était, je la cite, débile. Elle a lancé un plaidoyer du sport comme une grande cause municipale. Là, on a reçu le communiqué hier. En fait, le sport, c'est une ligne de budget qu'on peut supprimer comme ça. C'est ça ton rôle aujourd'hui, peut-être, Tony, d'aller voir les politiques, justement, disant...
C'est de continuer.
Comment faire pour les convaincre? Parce que tout ce que tu as dit, on le partage. Et pour rebondir sur ce que disait Simon, sur la partie héritage, c'était un pilier fort de Paris 2024.
Mais pour moi, l'héritage, là où je suis pas d'accord avec ce que tu sous-entends, c'est que l'héritage, il est réel. Il est très fort. Ne laissons pas penser qu'il n'y a pas d'héritage.
Non.
Il y a non seulement un héritage matériel hyper fort avec les infrastructures.
D'accord.
Il y a aussi un héritage immatériel hyper fort. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui ont vécu quelque chose d'incroyable.
Mais justement.
En se disant, mais c'était magique. Quand est-ce qu'on recommence? Voilà. Quand est-ce qu'on continue à défendre le sport? Donc, je pense qu'il faut surfer sur cette vague-là.
Ah, quand c'est Tony Estanguet qui le dit, là, tout le monde l'a fait. J'ai dit mot à mot la même chose sur ce plateau, sur l'héritage immatériel et tout. Et on m'a dit, mais il faut des salles de ping-pong, il faut des salles de basket.
T'as pas été président de Paris 2024, t'as pas écrit un livre.
Merci de l'avoir dit sur ce plateau.
Merci à vous.
Merci Tony Estanguet, par amour du sport, aux éditions Calman Levy, c'est sorti hier. Si vous avez envie de vous replonger pour Noël, par exemple, dans l'aventure. La victoire collective de Paris 2024, c'est une formidable idée. Merci Tony. Tu reviens quand pour nous raconter la suite, du coup? Ce sera décidé quand?
La semaine prochaine, c'est fait déjà.
Non. Laissez-moi encore quelques semaines. Assez vite. Merci.
Merci Tony et à bientôt dans les grandes gueules du sport. Allez, on revient dans un instant. J'y crois pas. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Tony Estanguet était face aux grandes gueules du sport il y a quelques instants. Vous retrouverez évidemment toute l'interview en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. On est toujours avec Julien Beneteau.
Et c'est sa finale de 2012 commentée en podcast.
Je pense, ouais. Je pense que ça se retrouve particulièrement bien commenté à l'époque. Je dis ça, je dis rien. Pascal Duprat, Fred Weiss, Simon Dutin sont là. Simon Dutin, t'inquiète pas, on respecte, même si t'as pas été président de Paris 2024, non. Que tu disais la même chose que Tony Estanguet, mais pas avec le même rôle. On va tout de suite aller voir Léna Marjac.
La force de l'émetteur, on en revient toujours à la même chose.
La force de l'émetteur et la force des trophées. On gagne à Rennes, sinon on gagne à Lévis en Finlande. Le slalom féminin qui s'est lancé il y a quelques instants. Léna Marjac qui est sur place. On en est où?
On en est où? Et le Rennes risque d'aller une nouvelle fois chez Michaela Schifrin. En tout cas, après cette première manche, elle a clairement découpé la piste, l'américaine qui a mis plus d'une seconde d'écart à l'ensemble de ses concurrentes. Et par contre, du côté des Françaises, on en attendait une particulièrement, Marie Lamure, qui s'est lancée avec le dossard 17, mais elle a failli partir à l'erreur. Donc elle a perdu beaucoup de vitesse ensuite dans le mur ici à Lévis. Donc elle se classe 21e, 22e à l'instant provisoire. Et Marion Chevrier, elle est 12e. Il reste encore 5 Françaises à s'élancer dans quelques instants ici à Lévis. Mais en tout cas, les conditions sont parfaites. Le ciel est dégagé. Il fait froid, voire très froid. Et donc la piste est glacée. C'est ce qu'on aime. C'est parfait pour une première manche.
Il ne fait pas jour très longtemps hein, à Lévis, on le sait.
Non, ça va se coucher dans quelques instants.
Exactement. On suit ça avec toi en fil rouge, évidemment. Léna, en fin d'émission, vous pouvez jouer au jeu du sport. Je vous rappelle, avec vos GG aujourd'hui, vous pouvez porter un aspirateur Cyclomax R15 Station signé Easy Clean. Franchement, ça envoie, ça inspire, en tout cas pas mal. Pour emporter votre aspirateur Easy Clean, appelez le 3216, touche 4, envoyez sport au 7-32-16, sport ou 7-32-16. Pas besoin de repasser dessus. Tout finir
l'aspirateur. Voilà. Voilà. Ça aspire.
Voilà, exactement. Mais d'abord, on se projette dans les GG parce que les GG savent. J'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
J'y crois pas. Les GG, je vais vous donner des prédictions possibles. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous savez que la Coupe Davis, le Final 8, c'est mardi. Ça commence le tournoi final à Bologne, en Italie. On sera sur place avec RMC. J'y crois pas. La France va pour la première fois participer au Final 8 de la Coupe Davis. Quart de finale face à la Belgique. Et elle va gagner la Coupe Davis. J'y crois pas. Simon.
Je n'y crois pas, Georges.
Fred.
J'y crois pas du tout.
Pascal.
Je n'y crois pas du tout, Georges.
Bennett?
Ben, moi, j'y crois.
Bennett, j'ai des arguments. Tu y crois? Pourquoi tu y crois?
J'y crois parce que le tableau s'ouvre un peu, entre guillemets. Donc, en quart de finale, on joue la Belgique, qui est une équipe abordable pour notre équipe de France. Composée de Arthur et Norknech en 1, Moutet en 2. Donc, c'est important lors des matchs dans ce format-là. Giovanni Mpetshi-Pericard qui peut être un grand joker, et un double Bonzi-Herbert, Pierre-Hugues Herbert qui est très en forme en double, demi-finale à Bercy, enfin au Rolex Paris-Mercer, gagner le tournoi de Metz avec Quentin Alice, donc il a du rythme. Pourquoi je vous ai dit que le tableau s'ouvre? Parce qu'en demi-finale on joue l'Italie, sauf qu'en Italie il y aura ni Sinner ni Musetti, et que là du coup c'est plus du tout la même équipe. Et que après, si on se retrouve en finale, sur une finale, tout peut arriver. Surtout avec ce format-là, où quand on a un Corentin Moutet en numéro 2 qui est en forme,
se joue sur une journée.
C'est deux simples, un double. Il fallait le sortir, et que après, ça peut se jouer au double décisif. Et donc, dans ce format-là, avec ces forfaits italiens, avec cette partie de tableau, et ben, c'est jouable.
Convaincu ou pas convaincu par Bennett?
Alors, pas convaincu, déjà parce qu'il y a au moins 14 si dans sa phrase. Pas authentique, franchement, pas réellement. Et ensuite, mais on parle de Coupe Davis, mais ça existe encore la Coupe Davis?
On va en parler demain.
Final 8, je trouve que ça catastrophique. Ça ne m'intéresse pas.
Avant,
il y avait le rêve du week-end, on avait envie de voir ça.
Alors attention, t'as complètement raison, et je fais partie de. Je suis avec toi à 150%.
C'est beaucoup.
Et ça mériterait qu'on se penche dessus sur un sujet un peu plus long. Il y a Sinner qui a dézingué la formule.
Exactement, il a dit ça.
Zverev hier soir.
Ouais, mais ça fait pour autant pas des Français gagnants.
Non.
Alors d'une part, les Français sont pas gagnants, mais en plus c'est pas la Coupe Davis, donc
s'ils boycottent tous peut-être.
Non, mais quand on entend Sinner, tu te rends compte que quand il parle de Coupe Davis, il parle. J'ai pas joué la vraie Coupe Davis. D'une part, Zverev qui dézingue. Ouais. Moi, je n'y crois pas du tout. Je crois pas qu'il gagne, et en plus, je crois pas à la Coupe Davis. Donc,
peut-être que du coup, le fait qu'il prenne la parole comme ça sur ce sujet-là, ça peut faire revenir dans un futur pas dans les deux ans qui viennent, mais assez proche, à une vraie belle Coupe Davis à l'ancienne, sur deux ans.
T'es plus convaincant sur cette argumentation.
Oui, bon, d'accord, merci les gars.
C'est que sur la victoire.
On va gagner la Coupe Davis.
Je vais me réserver pour demain, non? Je crois qu'on en parle demain.
On va en parler demain. Est-ce que vous allez vous intéresser à la Coupe Davis?
J'y porte qui est inexistant, en effet. Mais en revanche, Bennett l'a rappelé, dans un format éclaté comme ça, avec aucun des meilleurs joueurs du monde motivé pour la disputer. Pourquoi pas?
Si.
Pourquoi pas gagner? Bah, tu vois, t'as peut-être un peu convaincu. T'es très convaincant ce matin, Bennett. Ouais, faut faire attention. j'y crois pas. Cristiano Ronaldo ou Messi, l'un des deux sera champion du monde pour leur dernière Coupe du Monde, hein, parce que désormais, voilà, c'est officialisé. Hein, Cristiano l'a dit. Vous y croyez? Vous y croyez pas, Simon?
J'y crois pas.
Fred?
J'y crois pas du tout.
Bennett?
Mais j'y crois pas du tout.
Pascal?
J'y crois pas, tout simplement.
Bah, j'y crois pas. Pourquoi t'y crois pas?
Parce que c'est la France qui gagnera la Coupe du Monde.
Ah oui, d'accord.
T'es sûr, mais jusqu'à preuve du contraire, ils sont portugais et argentins.
D'accord. Donc, on peut pas gagner la Coupe Davis, on va gagner la Coupe du Monde de foot. C'est cool.
Je pense qu'on a plus de chance.
Je pense que Cristiano
a plus de chance de gagner la Coupe du Monde de football que la Coupe Davis, malgré l'argumentation.
Je suis d'accord avec toi, Pascal.
Il a un petit peu plus de chance, à mon sens, de la gagner que Messi, parce qu'il est mieux entouré que le Portugal, quand même. Office de favori, mais
l'équipe qui a perdu. Je reconnais ton expertise, Simon. Tu as raison. Je suis absolument d'accord avec toi.
Merci, Pascal. Mais cela étant dit, si tu regardes, en fait, c'est que personne. Depuis quand aucune sélection n'a pas remporté
la.
N'a fait le doublé, voilà, c'est ça. C'est que tu peux les mettre, même s'ils étaient archi favoris, souvent, on a des surprises. Donc, la France ou l'Espagne. Ou l'Angleterre? Non, je déconne pas.
Tiens, d'ailleurs, Maxime Abolin, mon producteur, me souffle. Hein. J'y crois pas, après vous avoir écouté. Si Kylian Mbappé gagne la Coupe du Monde, il sera plus grand que Cristiano Ronaldo et Messi. J'y crois pas.
J'y crois pas.
Non?
J'y crois pas.
Ah ouais, c'est marrant ça, Bennett.
Pour moi, c'est deux légendes, il faudra encore un peu de temps.
En étant deux fois champion du monde.
Moi j'y crois, parce qu'il faut arrêter avec les cagoleries individuelles dans un sport.
Eh ben j'ai le droit d'être une cagole, je suis une cagole, j'adore.
Mais c'est non, non,
j'adore,
mais,
c'est deux stars, c'est deux légendes absolues.
C'est le basket et Saint-Étienne, mais à un moment donné, il y a le palmarès et l'influence que tu as.
Surtout qu'au bout d'un moment, ça se joue à autre chose que les stats, les buts,
mais bien sûr,
les trophées. Et Messi, je suis désolé, les faits du football ont. Voilà, on fait tomber la poudre de perlimpinpin, la poudre dorée sur son berceau lorsqu'il
était. Simon.
Il y a une façon de caresser la balle, il y a une façon de lâcher le ballon, de passer le ballon, de
critères
que exactement
que les stats, tous les stats, je suis d'accord.
Voilà, et qui fait que
Les stats, c'est surtout valable pour le basket. Ça, pas préparé, tout. Donc,
et ouais, justement, j'ai des sentiments. Qu'est-ce que t'as dans le ventre, Bennett? C'est ça qu'on veut savoir.
Il n'a pas de sentiments.
Le débat caché, c'était l'année dernière, il glissait. On a enlevé ce truc.
Maintenant, fais un
vidéo. Tu relances, tu prépares. Voilà.
Le boulard.
Bonsoir, j'y sais. Écoutez, dans les minutes, il a enchaîné, évidemment, du lundi au vendredi. J'y crois pas. Tiens, un dernier. Fred, il est pour toi, celui-là. Wemby va se qualifier, Victor Wembanyama, en playoff dès cette saison. Ils ont été battus d'ailleurs cette nuit par les Warriors. Les Spurs. J'y crois pas. Rapidement,
directement, t'as dit.
Bennett, juste, j'y crois pas.
J'écoute Fred, je pense que oui. Je pense que Spurs.
Non, moi, j'y crois pas.
J'y crois un peu.
C'est bon.
Moi, je pense qu'ils vont faire 4 à l'Ouest et que Wemby va être élu MVP.
Pourquoi un peu, Fred?
Un peu parce que l'Ouest, c'est vraiment sauvage, c'est compliqué. Il y a des très grosses équipes. Il y a les Thunder, les Nuggets, les Rockets, les Lakers, les Wolves.
Il y a Oklahoma, Denver et Golden State éventuellement.
C'est peut-être même en dessous. Les Rockets, c'est plus fort. Les Lakers, c'est plus fort. Attention. C'est faisable, mais il va falloir continuer ce rythme. Il va falloir que personne ne se blesse. Il va falloir plein de choses. Il sera à l'Est. Je signerai tout de suite qu'il serait top 6. Mais à l'Ouest, c'est beaucoup plus compliqué.
Wembanyama battu cette nuit d'un point par les Warriors, un match incroyable, 109-108, victoire de San Francisco, 49 points pour Steph Curry, victoire Wembanyama, 26 points, 12 rebonds, 4 passes donc pour Wemby, qui a été énorme quand même. Je vous invite à revoir ce qui s'est passé sur le site rmcsport.fr. les amis, dans un instant, le vestiaire, est-ce que la sélection est au-dessus de tout? Vous allez nous parler de vos expériences, vous êtes tous passés avec le maillot floqué du coq, vous l'avez tous porté. Même Simon, je suis sûr qu'il va nous le dire tout à l'heure, il l'a porté en tout cas. Et puis on parlera de Kylian Mbappé, également forfait en Azerbaïdjan. Est-ce que c'est une blessure diplomatique? Est-ce que c'est gênant? Tiens, on va vous apporter toutes les informations et puis on va en débattre avec vous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.